Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
À l'occasion de la conférence sur le handicap, aujourd'hui, Europe 1 a décidé de parler du handicap en France. Et c'est l'occasion pour moi de vous faire entendre l'une de mes plus belles histoires. L'histoire de Philippe Croison, amputé des quatre membres, des deux bras et des deux jambes, et qui a une pêche, une énergie vitale stupéfiante, qui l'ont fait traverser la Manche à la nage, relier les cinq continents à la nage, signer un Paris-Dakar en 2017, et tout un tas d'autres folies du même tonneau. J'ai tiré mon histoire de son livre paru en 2006 chez Jean-Claude Gozevitch et qu'on retrouve aujourd'hui chez Pocket. J'ai décidé de vivre. Quentin Mouchel m'a aidé à l'écrire. Réalisation de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
À la base, Philippe Croison, c'est pas un type dont on raconte l'histoire. C'est un type sans histoire. En 1994, il a 26 ans, il vit avec Muriel depuis ses 18 ans. Ils se sont mariés l'année d'avant, ils ont un petit garçon de 7 ans qui s'appelle Jérémy, et Muriel est enceinte du second, enceinte de 7 mois. Voilà. Ils habitent à Saint-Rémy-sur-Creuse, dans la Vienne, et comme Philippe vient de trouver enfin un boulot stable de métallo dans une fonderie, ils ont acheté une maison et donc ils déménagent. Je vous l'avais dit, hein. Jusque-là, il n'y a pas d'histoire. Sauf que la vie, cette chienne de vie, est capable en deux secondes de vous transformer un type sans histoire en un héros moderne. Et voilà comment. On est donc en mars 1994, et je vous l'ai dit, les Croisons déménagent. Alain, le beau-frère, est là, Odile, la belle-sœur, ils sont venus donner un coup de main. Ça déconne, ça rigole, et en moins de deux, le camion est plein à craquer. Ah ! Il manque juste un truc. L'antenne de télé. Pas question de la laisser au suivant.
Je vais la démonter, va. T'inquiète pas. Il n'y en a pas pour longtemps.
Et donc Philippe attrape une échelle, il la déploie au maximum, il grimpe, et comme il est prudent, il s'attache à la cheminée avec une corde. Et les deux pieds sur le dernier barreau, il se met à déboulonner l'antenne de télé. D'en bas, son beau-frère le chambre.
Alors mon vieux, tu te prends pour Tarzan sur ton échelle? T'es sûr que ta sangle va pas foutre le camp au moins? Je suis collé à la cheminée comme une abeille à son pot de miel. Y a aucun risque.
Et ça y est, il a déboulonné cette fichue antenne. Et maintenant, faut redescendre. Et là, c'est une autre histoire. Le machin fait 2 mètres, ça pèse un âne mort. À un moment donné, il vacille, et pour se rattraper, il appuie ses tibias sur l'échelle. Et là, un éclair, une détonation, et Philippe se retrouve accroché dans le vide comme un pantin désarticulé. Il vient de se faire foudroyer, parce qu'à 1,30 m au-dessus de la maison, il y a une ligne à haute tension qui vient de former un arc électrique. Avec l'antenne. Tant qu'il s'appuyait sur ses chaussures en caoutchouc, ça allait, mais quand il a posé les tibias sur l'échelle, paf ! Il a pris, comme l'éclair d'un orage, 20 000 volts, le courant a sauté, et c'est lui qui a joué le fusible. Il est mort ! Le cœur ne peut pas supporter un choc pareil, il est mort ! Mais la miracle, nouvelle détonation. Le courant s'est remis en marche automatiquement et il a pris une deuxième décharge. Et le miracle, c'est que l'électrochoc l'a ramené à la vie. Il a relancé le cœur. C'est dingue. Mais c'est pas fini. C'est loin d'être fini. Il sent le courant qui gronde dans son corps, dans ses os. Un filet de sang coule de ses lèvres et il hurle.
Je veux pas mourir. Je veux pas mourir.
Et là, le courant se coupe à nouveau quelques secondes et puis il revient. Et là, ça dure. Ça dure des minutes qui durent des siècles. J'ai l'impression de n'être plus rien, d'être réduit à ce bruit assourdissant qui a investi mon corps et le consume. Le malheur veut que je sois resté lucide. Mon esprit et mon corps sont désormais scindés, déconnectés l'un de l'autre. Je me vois brûler. Une boule de feu poursuit en moi sa lente progression et me ronge morceau par morceau. La torture est absolue. Il est en train de brûler. Et d'ailleurs, son jean s'enflamme. Un voisin enfile de grosses godasses et prend des gants en caoutchouc. Il attrape un extincteur. Il grimpe sur l'échelle. Il éteint le feu, mais pas le courant. Et ça dure. Et ça dure. Et ça dure 20 minutes. Vous entendez ? 20 minutes à rôtir, à se consumer de l'intérieur, jusqu'à ce qu'on parvienne à couper le courant. Et Philippe qui souffre le martyr. Les gens qui sont là, son père, son frère qui viennent d'arriver, ne donnent pas cher de sa peau. Vous vous rendez compte ? Il a pris du 20 000 volts pendant 20 minutes. Les secours arrivent sur place. Et une ambulance le conduit au terrain de foot où un hélicoptère a pu se poser. Et on l'emmène au centre hospitalier de Tours et lui trouve encore la force de faire une blague à son frère qui l'accompagne.
Tu remercieras les installateurs de ma part.
Et juste après, il sent de l'agitation autour de lui et il entend
« Vite ! Massage cardiaque ! Il fait un arrêt !»
Pendant le transport en hélico, il en fait deux arrêts cardiaques. Et deux fois, grâce au défibrillateur, son cœur repart. Il veut vivre, le diable. Il veut vivre. Mais sur le papier, il y a zéro chance. Il est carbonisé de l'intérieur. Et le voilà au service des grands brûlés à Tours, dans une chambre stérile. 4 jours après l'accident, un médecin vient voir la famille.
Bien. Les brûlures occasionnées par l'accident sont plus graves que des brûlures au 3e degré. On parle là de carbonisation. Les lésions sont importantes et en tout état de cause, il va falloir l'amputer de son avant-bras droit.
Philippe est dans le coltard à cause de la morphine, mais il y a un moment où il comprend. Il comprend ce que ça signifie. On va lui couper le bras dont il se sert le plus, celui avec lequel il tient son petit Jérémy par la main, celui avec lequel il mange. Ça le mine, mais s'il savait ce qu'il attend. On l'ampute donc de l'avant-bras droit. Et 3 jours plus tard, de l'avant-bras gauche. Et de la jambe droite, juste au-dessus du genou. Lui, il est dans les vapes, il ne saisit pas l'énormité de ce qui est en train de se passer. Il n'a plus de bras, et il ne lui reste qu'une jambe. Et quand vous demandez aux médecins, ils ne sont toujours pas capables de jurer qu'il va survivre. Son corps est carbonisé de l'intérieur. Et la carbonisation, ça produit des toxines, un poison que les reins ne savent pas filtrer. Alors on le met sous dialyse, et il survit. Mais les premières semaines, la morphine et les calmants, il est dans le potage. Il ne réalise pas. C'est quand on diminue les doses, au bout d'un mois, que le ciel lui tombe sur la tête. On se sent glisser vers la folie. Le désir intense que le cerveau s'arrête de fonctionner, mais cela n'arrive pas. Alors émerge l'envie profonde, vitale, de mourir, seul moyen d'arrêter la souffrance. Philippe est au fond du trou. Il ne se voit plus d'avenir. Sa famille vient le voir tous les jours, sa femme, son fils, il lui parle à travers un interphone, sa chambre est stérile, il est derrière une vitre. Pour eux aussi c'est dur, hein. Ils font ce qu'ils peuvent pour ne pas s'effondrer, pour lui faire passer un peu de force. À ce stade, il lui reste une jambe. La gauche. Mais pas pour longtemps. Un matin, les médecins débarquent.
Votre jambe gauche. Vous voyez là? Le petit point noir au niveau du tibia. Le courant est passé par là. Elle a été carbonisée, elle aussi. Il va falloir l'amputer.
Philippe se dit, au point où j'en suis. Et le voilà amputé des 4 membres. Un jour, son copain Jackie vient le voir. Et avec lui, Philippe craque.
Je suis foutu. T'entends ? Je suis foutu. Je veux mourir, Jackie.
Philippe, tu vois, moi, j'ai perdu mon père très tôt. Je sais ce que c'est que de ne pas avoir de papa. Alors tu penses à Jérémy. Tu penses au futur bébé. Ils ont besoin d'un père. Eh bien, c'est exactement ce qu'il fallait lui dire. Jackie a trouvé les bons mots, ouais. Les gamins. Vivre pour les gamins. Ça, ça lui parle. Sacré Jackie. À partir de ce moment-là, Philippe change radicalement de perspective. C'est brutal, c'est fulgurant. Un changement de pied, il me pardonnera le jeu de mots, tellement radical qu'il en deviendrait inquiétant. Est-ce qu'il serait pas en train de partir en sucette, le Philippe? De devenir dingo? Remarquez, ça se comprendrait. Mais non, mentalement, il est déjà après. Par exemple, il veut savoir ce qu'il se fait en matière de prothèse. Et c'est là, à ce moment-là, sur son lit d'hôpital, qu'il évoque la première fois l'idée de traverser la Manche à la nage. Ça lui est inspiré par un reportage qu'il voit à la télé.
Hey, pourquoi pas moi ?
Ça semble délirant, hein ? Mais ça lui donne de la perspective. Ça lui fait du bien. Il parle aussi déjà de reconduire une voiture. Tout ça, je ne vous raconte pas de blagues, hein ? Quelques semaines après son accident et ses 4 amputations. À peu près à cette époque, derrière la vitre, son fils Jérémy, qui a 7 ans, lui pose une drôle de question.
Papa, je pourrais voir tes blessures ?
Philippe hésite. Et puis il accepte. À mon grand soulagement, Jérémy réagit très bien. Il ne semble pas du tout choqué et me promet qu'il continuera à bien travailler à l'école et que cela ne l'empêchera pas de m'aider à manger. Je reçois ce jour-là une immense bouffée de chaleur. Deux mois et demi après l'accident, Philippe est toujours derrière sa vitre. Et là arrive un événement considérable. Sa femme, Muriel, accouche de leur petit deuxième, Grégory. Le père de Philippe débarque tout de suite à l'hôpital avec une photo. Et Philippe fond en larmes, des larmes de joie. Et une infirmière fait péter le champagne et elle lui humecte un peu les lèvres. Légère entorse à la stérilité de sa chambre. Et puis un jour, ils quittent cette chambre et ils peuvent enfin s'embrasser. Sa femme, ses enfants, ses amis, ses parents, c'est un moment très fort qui dure pas longtemps. Hein. Il doit retourner en chambre stérile, mais ça lui fait du bien. Et 3 mois après son accident, le 6 juin, il quitte l'hôpital pour le centre de rééducation de Valenton, dans le Val-de-Marne, près de Paris. Et là, vous allez voir ce que c'est qu'un type qui n'en veut. Et là, il débarque dans un centre de rééducation à Valenton, dans le Val-de-Marne, près de Paris, et ça n'est plus la même limonade. Ça lui fait l'effet d'un ghetto, un ghetto pour handicapés. Et ça plombe un peu sa motivation. Et pourtant, il sait que c'est incontournable. Il vient de passer 3 mois à l'horizontale, il doit se réhabituer à la position verticale, et il doit rééduquer ses muscles s'il veut porter des prothèses. Mais c'est dur. Et les premiers jours, il craque. Et il craque devant Muriel, sa femme.
J'y arrive pas, Muriel. Je me sens abandonné. Putain ! J'y arrive pas, je te dis !
Philippe a le moral dans les chaussettes. Lol. Et les médecins, évidemment, le remarquent. Et le médecin-chef leur propose à tous les deux, Philippe et Muriel, une solution.
Écoutez, Philippe, si vous n'y mettez pas plus de cœur, à ce train-là, votre fils va marcher avant vous. Alors j'ai pensé que peut-être, Muriel, vous pourriez venir séjourner au centre, le temps de votre congé maternité. Vous partageriez la chambre de Philippe.
Philippe est aux anges, et il se fait une promesse. Il marchera avant son fils. On est en juin, Eh bien, il marchera au mois d'août. Foi de croison. Il marchera pour l'anniversaire de mariage de ses grands-parents. Et comme ça, il retrouve de la volonté, de l'énergie. Et tant qu'à faire, on lui baisse le traitement antidépresseur qui est censé l'empêcher de craquer. Il a besoin de craquer, de temps en temps. C'est comme ça qu'il avance. Au début, il s'agit surtout de le remettre en position verticale. On le sangle sur une planche, on incline la planche petit à petit. Une heure le matin, une heure l'après-midi. Ça va. Mais il y a des moments de cafard, ça c'est inévitable. Et comme Muriel est là, au pied du lit, eh ben c'est elle qui encaisse.
J'en peux plus, putain, Muriel! Je peux pas vivre dans cette condition. Je veux mourir.
Et cette fois, Muriel lui rentre dedans. Elle ouvre la fenêtre.
Eh ben vas-y, saute, puisque tu penses qu'à toi, hein? Tu penses à ma souffrance, à moi? Qu'est-ce qu'on va devenir si t'es plus là, moi et les petits?
Ils se regardent en silence, ils fondent en larmes, et Muriel le prend dans ses bras. Muriel m'a tenu tête. Elle ne m'a pas plaint, elle a eu diablement raison. Ça n'est pas parce qu'on est handicapé que nos défauts s'effacent d'un coup de baguette magique. Il faut donc nous traiter de la même façon qu'avant. Si nous sommes infects, il faut nous le dire. Ça ne peut que nous aider, nous relancer dans notre lutte. Et donc, petit à petit, Philippe s'approprie ce nouveau corps. Il apprend notamment à se servir de ses moignons, à découper du bois, à faire de la peinture. Il se donne à fond. Puis un matin de juillet 1994, 5 mois après l'accident, se produit un événement dont peut-être seuls les garçons peuvent pleinement apprécier la valeur. Il a la gaule, il a la trique. Pas que ça, c'était un souci, c'était un gros souci. Il n'était pas certain de rebander un jour. Et ça marche, et il va pouvoir refaire l'amour. Et c'est bon pour le moral. Vous vous souvenez que Philippe s'était donné pour objectif de remarcher en août? Eh bien, on y est, en août. Ça fait 3 mois qu'il fait de la rééducation et il va tenter de faire son premier pas. Il enfile des prothèses qu'on appelle des monoblocs. Ce ne sont pas des prothèses définitives, hein, c'est lourd. Ça n'est absolument pas fait pour marcher. Muriel filme. Et tout le service est là, hein. Il y a les kinés, les infirmières, tous les résidents. On veut le voir. Et il se lance, un kiné de chaque côté pour l'épauler au cas où.
1, 2, 3, allez, on y va.
Et ça y est, il est debout, mais il perd l'équilibre et il se rassoit. Et puis il recommence 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il transpire comme un boxeur, et comme un boxeur, on lui éponge le front, et puis à un moment, il fait son premier pas. Et les gens autour applaudissent. Alors les jours qui suivent, il s'entraîne comme un forcené. Et au bout d'une semaine, il marche comme un canard, mais il marche tout seul. Et à l'anniversaire de mariage des grands-parents, personne n'est au courant. Tout le monde s'attend à le voir débarquer en fauteuil électrique. Quand il arrive dans la salle des fêtes, juché sur ses prothèses monoblocs, les gens sont scotchés. Et passé l'effet de surprise, ils se jettent dans ses bras. Eh bien maintenant, étape suivante. Parce que il ne peut pas vivre durablement avec ses machins tout raides, au bout des moignons. Alors maintenant, voyons ce qu'il peut faire au niveau des bras. Pour les bras, il existe des prothèses qu'on appelle myoélectriques. C'est une technologie de pointe. Il s'agit d'utiliser les muscles qui vont jusqu'au bout des moignons pour déclencher une impulsion électrique qui va faire bouger la prothèse. Mais ça, c'est sur le papier. Parce qu'en pratique, Philippe a un mal fou à doser la puissance. C'est très compliqué à gérer. Et donc, au final, il s'en sert, hein, mais pas tout le temps. Il les enlève souvent. Mais c'est ça qui lui permet de passer à la prochaine étape. conduire. En septembre, 6 mois après le drame, Philippe trouve une voiture adaptée avec un joystick et la reconnaissance vocale. Il prend des cours et c'est bon. Ça, c'est fait. Mais bon, Philippe n'est pas Crésus, hein. Tout ça, la voiture, le fauteuil, les prothèses, les aménagements qu'il va falloir faire chez lui, ça coûte très cher. Et c'est pas pris en charge. Et donc en septembre, ses parents créent l'association d'aide et de soutien à Philippe pour recueillir des dons. Mois après l'accident, fin 1995, Philippe peut enfin retourner vivre chez lui. On va dire les choses franchement. Les débuts sont difficiles. Il gamberge sur son rôle de père, sur son rôle de chef de famille. Et pour tout dire, il s'ennuie, il s'emmerde en attendant que Muriel rentre du travail. Et quand elle rentre, eh bien il est infect avec elle. Infect. Les années passent, il se reconstruit psychiquement, mais 7 ans après le drame, à force d'être infect, Muriel le quitte. Et là, tout son monde s'écroule. Ce soir-là, il s'enfile une bouteille de martini, il va sur un pont, il est sur le point de sauter. C'est Jérémy qui appelle. Il comprend tout de suite que quelque chose ne va pas. Il lui envoie les secours et voilà, il va vivre. Philippe met 3 ans à se remettre du départ de Muriel. 3 ans. Et puis un jour, il se lance sur les réseaux de l'amour. Il se lance sur Mythique. Ah ! Il en passe du temps sur Mythique. C'est addictif ce genre de truc. Au début, sa stratégie est d'éluder la question du handicap. Quand il branche sa webcam, il s'arrange pour qu'on ne voit que sa bonne bouille. Et puis il annonce la couleur que quand ça accroche.
Ouais, en fait, je t'ai pas dit mais je suis handicapé. J'ai plus de bras et plus de jambes.
Très mauvaise stratégie. Alors finalement, il annonce la couleur d'entrée. Il montre tout à la webcam, tel qu'il est. Et là, ça marche. Il fait une première rencontre. Oh, c'est pas l'amour avec un grand A. Ça ne dure que quelques mois. Mais il sait qu'il peut aimer à nouveau et qu'il peut être aimé. Et quelques mois plus tard, il rencontre Susanna. Et ça, ça lui donne des ailes. À partir de ce moment-là, Philippe se lance des défis de plus en plus ambitieux. Il commence par un saut en parachute à 4000 mètres. Et en 2008, il annonce qu'il veut réaliser son vieux fantasme. Cette idée qui lui trotte dans la tête depuis son séjour au service des Grands Brûlés. Il y a 14 ans, il va traverser la Manche à la nage. Sauf qu'à ce moment-là, il n'a jamais fait de sport. Il est gras comme un lardon. Mais à Croison, rien n'est impossible. Pendant 2 ans, il s'entraîne comme un fou, 35 heures par semaine, 280 km de nage en piscine, en lac, en mer. Et le 18 septembre 2010, 16 ans après le drame, le voilà qui part de Folkestone en Angleterre, qui nage 13 heures et 26 minutes et qui arrive au Cap Griné. Et là-haut, sur la falaise, il entend crier
« Papa ! Papa, t'es le plus fort du monde !»
Et en retour, il crie
« Je vous aime ! Je vous aime !»
J'ai tiré cette histoire du livre de Philippe Croison, paru en 2006 chez Jean-Claude Gozévitch et qu'on retrouve aujourd'hui chez Pocket. J'ai décidé de vivre.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.